matin débute tout de suite avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est un procès fleuve qui entre dans sa dernière ligne droite aujourd'hui, celui du Mediator, un antidiabétique des laboratoires Servier, accusé d'avoir causé la mort de plusieurs centaines de personnes, d'en avoir blessé des milliers d'autres. Les parties civiles attendent notamment de lourdes réparations financières, un demi-milliard d'euros.
J'étouffe, ce sont les derniers mots de Cédric Chouviat, ce livreur à scooter plaqué et maintenu au sol est mort à la suite d'un contrôle routier qui a dégénéré à Paris.
L'Assemblée nationale, de nouveau autorisée à accueillir les 577 députés depuis hier, a voté des mesures de sûreté pour les terroristes sortant de prison. À la une encore, Emmanuel Macron dénonce le jeu dangereux de la Turquie en Libye. Et puis la Cisjordanie a connu hier sa plus grande manifestation contre le plan de Donald Trump pour le Proche-Orient.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, comment traduire l'écocide dans le droit pénal ? On posera la question à Judith Rochefeld, elle est professeure de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne.
Elles réclament 1 milliard d'euros d'indemnisation, sans compter les 450 millions d'euros de dommages et intérêts exigés par les caisses d'assurance maladie et les mutuelles. Les parties civiles, dans le procès fleuve du Mediator, demandent aussi au juge de prendre une mesure symbolique, la fermeture des laboratoires Servier en France, à la hauteur, estime-t-elle, de l'un des pires scandales sanitaires de notre histoire. Le Mediator, un antidiabétique des laboratoires Servier, largement détourné comme coupe-faim, a été prescrit à 5 millions de personnes pendant une trentaine d'années. Le Mediator est accusé d'avoir causé des centaines de morts. L'heure est aujourd'hui aux réquisitions du parquet, après la fin des plaidoiries hier des avocats des milliers de personnes qui se sont constituées partie civile au cours de ce procès suivi par Florence Turm.
Tour à tour, les avocats des parties civiles ont pris la parole, souvent avec véhémence, au nom des souffrances endurées par les patients et leurs familles, avec une indemnisation très difficile à chiffrer, explique-t-il, car elle conjugue à la fois le préjudice physique et moral, mais aussi l'anxiété massive de tous ceux qui ont pris ce médicament. Une atteinte collective, véritable rupture de la confiance dans le domaine de la santé, dénonce Martine Verdier, avocate de nombreuses parties civiles.
C'est un dommage qui est lié d'une violation d'un consentement. C'est une grosse tromperie, c'est un énorme mensonge qui a duré 33 ans, qui aurait pu d'ailleurs ne jamais être mis à jour si les lanceurs d'alerte et notamment Irène Frachon n'avaient pas été là. Ce qu'on attend, c'est qu'effectivement le ministère public reprenne ces vérités qui maintenant sont acquises au débat et puis que la sévérité de la sanction puisse faire de ce dossier non pas un dossier exemplaire en termes d'aggravation, mais exemplaire en termes d'appréciation de cette réalité qui est incroyable.
La peine d'amende maximale encourue représente 1 800 000 euros, pas même une année du chiffre d'affaires du Mediator, soulignent les parties civiles, qui appellent les juges à en finir avec un sentiment d'impunité, à prendre une décision symbolique et dissuasive, en ordonnant notamment la fermeture en France des laboratoires Servier.
Certains de ses soutiens veulent entendre un écho au « I can breathe » de George Floyd. « J'étouffe », ce sont les derniers mots prononcés par Cédric Chouviat, cet homme de 42 ans qui est mort en janvier dernier à Paris à la suite d'un contrôle routier qui a dégénéré. On a appris hier que les 4 policiers à l'origine de son interpellation avaient été placés en garde à vue la semaine dernière, entendus par l'IGPN, la police des polices. Delphine Gottschau a pu avoir accès aux enregistrements du téléphone de Cédric Chouviat et de l'un des policiers, enregistrements tournés pendant le contrôle.
À 7 reprises, Cédric Chouviat répète aux policiers qui viennent de le plaquer au sol pour le menotter « j'étouffe ». Les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle sont formels dans leur rapport d'expertise. Les 9 vidéos issues du téléphone de ce livreur, père de famille, et les 3 provenant de celui d'un des fonctionnaires sont parfaitement audibles. Les experts de la gendarmerie notent qu'au début, l'échange est relativement correct, même si, écrivent-ils, nous pouvons ressentir une forme de provocation ou de défiance dans les paroles de la personne contrôlée. Plusieurs fois, Cédric Chouviat traite les policiers de vrais clowns, de guignols. À 3 reprises, le contrôle semble sur le point de s'achever, mais à chaque fois, les échanges reprennent, de plus en plus tendus. Cédric Chouviat répète 8 fois « pauvre type ». L'un des policiers croit alors entendre « fils de pute », ce que les experts qui ont écouté les enregistrements ne confirment pas. La situation s'envenime, Cédric Chouviat hurle, demande aux fonctionnaires de ne pas le toucher, en lançant un dernier guignol au policier qui décide alors de l'interpeller. J'étouffe, seront ses derniers mots.
La famille de Cédric Chouviat et ses avocats tiennent une conférence de presse ce matin à Paris. Ils n'ont finalement pas manifesté devant la fresque qu'ils dénonçaient. Entre 200 et 300 policiers se sont tout de même rassemblés en fin de journée hier près de la préfecture de police de Bobigny en Seine-Saint-Denis pour demander l'intervention du représentant de l'État afin de faire effacer un message donc sur une fresque à la mémoire de George Floyd et d'Adama Traoré, fresque sur la commune de Stein, au nord de Paris. Une fresque qui dénonce le racisme et les violences policières inaugurée par le maire de la ville. Un amalgame inacceptable pour le syndicat Alliance Police. Ses responsables ont été reçus par le préfet hier. Il nous a apporté tout son soutien, explique Yvan Assioma, qui dirige le syndicat Alliance en Ile-de-France. Le préfet devrait même transmettre son indignation dans une lettre au maire de Stein. L'Assemblée nationale a voté cette nuit une proposition de loi en marche controversée prévoyant des mesures de sûreté pour les condamnés pour terrorisme à l'issue de leur peine. L'autorité judiciaire pourra imposer durant 5 à 10 ans à ces personnes l'obligation de répondre aux convocations du juge d'application des peines, d'établir une résidence en un lieu déterminé, des interdictions encore d'entrer en relation et de paraître dans certains lieux, l'obligation de pointage ainsi que, sous réserve de l'accord de la personne, le port du bracelet électronique, une mesure la plus attentatoire à la liberté. Selon certains, les marcheurs, dont l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, ont jugé que ce bracelet était pourtant incontournable. Ils ont prévu qu'il permette de réduire le pointage à une fois par semaine. Socialistes et communistes, eux, se sont abstenus sur un texte qu'ils estiment dangereux par rapport aux principes fondateurs du droit. Les députés qui auront peut-être un masque dans l'hémicycle cet après-midi pour la séance de questions au gouvernement, les 577 élus sont de nouveau autorisés à revenir au Palais Bourbon depuis hier, avec port du masque obligatoire donc quand les règles de distance physique ne peuvent être respectées. La prudence reste de mise au sein de l'institution qui a été l'un des premiers foyers épidémiques en France du coronavirus, mais l'on s'achemine vers un retour à la normale, Rosalie Lafarge.
En temps normal, près de 4000 personnes circulent au quotidien dans le Palais Bourbon. En pleine épidémie, le nombre de députés autorisés à siéger a été réduit au strict minimum avant de réaugmenter progressivement. Et ça y est, cette fois, tous peuvent revenir.
C'est un peu la rentrée des classes pour tout le monde et je crois que c'est un soulagement.
La distance et les outils numériques n'ont pas été forcément évidents à gérer, reconnaît le député Sylvain Waserman. Mais le président du groupe de travail sur le fonctionnement de l'Assemblée en temps de crise balaie la critique d'une partie de l'opposition selon laquelle la démocratie aurait été mise entre parenthèses pendant un temps. Le travail parlementaire ne s'est jamais arrêté, bien au contraire, souligne l'élu Modem.
Il est important de comprendre que le travail parlementaire fait partie des fonctions essentielles, en fait, au même titre quasiment que de fournir l'électricité ou l'eau potable. Alors pas dans l'ensemble des activités du Parlement, mais toutes les lois d'état d'urgence sanitaire, par exemple, nécessitaient une validation du Parlement. L'ensemble des budgets pour gérer la crise ont dû être validé par le Parlement. Donc je crois que le rôle du parlementaire s'est révélé important à la fois pour voter ces lois d'urgence et à la fois, de façon particulièrement visible, pour le contrôle de l'action du gouvernement. Parce que qui dit délégation de nos pouvoirs à l'exécutif dit aussi nécessité d'un contrôle de l'action de l'État.
Dès le 17 mars, l'Assemblée a créé une mission d'information sur la gestion de crise, mission qui s'est depuis dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête et dont les auditions ont débuté la semaine dernière.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu alors qu'il recevait hier soir à l'Élysée son homologue tunisien Kaïs Al-Seïd. Emmanuel Macron s'est livré à une nouvelle charge très violente contre la Turquie.
Et son président Recep Tayyip Erdogan accusé d'ingérence, lui qui est le principal soutien à l'international du gouvernement d'Union nationale de Tripoli, qui a repris au début du mois le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye en faisant reculer les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Pour Emmanuel Macron, la Turquie joue un jeu dangereux.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. C'est le même discours que j'ai tenu cet après-midi lors de l'échange que j'ai pu avoir avec le président Trump, car il en va de l'intérêt de la Libye, de ses voisins, de toute la région, mais également de l'Europe.
Emmanuel Macron, qui s'exprimait hier après avoir reçu son homologue tunisien. Hier, des milliers de personnes manifestaient à Jéricho en Cisjordanie. Il s'agissait, côté palestinien, du plus grand rassemblement depuis l'annonce fin janvier du projet de Donald Trump pour la paix au Proche-Orient. L'OLP et le Fatah ont appelé à des mobilisations massives malgré l'augmentation des cas de coronavirus dans les territoires palestiniens. Les Palestiniens qui ont donc répondu présents comme 48 diplomates de la communauté internationale, ainsi que la mère d'Eyad Alalak, jeune palestinien tué le mois dernier à Jérusalem. Aucun représentant côté israélien, aucun américain non plus, n'était invité. Un pari diplomatique réussi pour Ramallah, Alice Froussard.
Une marée de drapeaux aux couleurs de la Palestine et des milliers de personnes réunies sous un soleil de plomb, kéfiers autour du cou, casquette jaune couleur Fatah vissée sur la tête. Après l'hymne national, Nikolaï Mladenov, émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, monte à la tribune, se tourne vers une quarantaine de diplomates alignés au premier rang.
Chers amis, il n'y a pas de temps à perdre.
L'annexion est contraire au droit international, continue-t-il, elle pourrait tuer l'idée d'une paix, puis il s'adresse directement aux Palestiniens.
Vous ne louez pas une maison ici, c'est votre maison. Ne désespérez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais.
Après lui, le représentant de l'Union européenne, puis des responsables chinois, russes, jordaniens s'expriment à leur tour. 2 heures de discours et c'est Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, qui conclut.
En finir avec l'occupation, appeler à l'indépendance de l'État palestinien avec Jérusalem comme capitale et les frontières de 67.
Des interventions qui ont séduit Ahmad Yaghi, professeur des écoles venu d'Akbat Jaber, un camp de réfugiés à quelques kilomètres de Jéricho.
C'est un premier pas. Et on va continuer. On ne veut pas laisser notre terre aux Israéliens, ni à qui que ce soit d'autre.
Un rassemblement contre l'annexion, un peu comme un test réussi pour le leadership palestinien.
Au Mali, le pays est toujours en proie à de fortes tensions politiques et la contestation qui s'affirme depuis la semaine dernière envisage celui de Mamoud Diko, imam aux prêches rigoristes et patriotes, tout sauf un nouveau venu dans le paysage politique malien, Louise Baudet.
Nul besoin pour lui de truster micros et caméras. Mahmoud Diko, 66 ans, imam charismatique dans un pays à 95% musulman, était hier absent de la conférence de presse du mouvement du 5 juin. Personne pourtant ne lui conteste le leadership de cette coalition des opposants qui fait descendre des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bamako pour réclamer la démission du président Ibeka. Marasme économique, effondrement des services publics, impuissance de l'État à juguler les attaques terroristes et les violences intercommunautaires. L'exaspération monte et l'imam Diko surfe sur le discrédit qui frappe Ibeka, président qu'il a pourtant contribué à faire élire, mais qui a tardé à le suivre sur la voie du dialogue avec les djihadistes locaux. Dialogue dont l'imam Diko est un fervent partisan, lui qui incarne au Mali le courant rigoriste de l'islam inspiré du wahhabisme. Pour l'heure, ni la promesse présidentielle d'un gouvernement d'union nationale, ni la proposition de médiation des pays voisins n'ont fait fléchir l'imam à la barbichette blanche et ceux qui avec lui réclament le départ d'Ibeka, président soutenu par la communauté internationale et la France en particulier, au sein d'un G5 Sahel qui doit justement se réunir à la fin du mois.
Quelques mots du temps dans l'Hexagone ensoleillé et chaud en ce mardi 23 juin, compté au meilleur de la journée entre 25 et 30 degrés sur la moitié nord, 29 à 35 au sud, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va évoquer le crime d'écocide, comment le traduire dans le droit pénal. 7h12 sur France Culture.